Nous lirons ce matin dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, les versets 1 à 18. Exode 16, c'est donc un tout petit peu après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois à compter de leur sortie d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites se mit à maugréer dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent : Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. C'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans le désert. L'Éternel dit à Moïse : Je vais faire pleuvoir sur vous du pain depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils recueillent jour après jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il vous a entendu maugréer contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous pour que vous maugréiez contre nous ? Moïse dit : L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété. L'Éternel vous a entendu maugréer contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que vous maugréez, c'est contre l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron : Dis à toute la communauté des Israélites : Présentez-vous devant le Seigneur, car il vous a entendu maugréer. Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert et la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel dit à Moïse : J'ai entendu les Israélites maugréer. Dis-leur : À la tombée du soir, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasirez de pain. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux, de crissant. Quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun en recueille ce dont il a besoin, un homère par tête, selon le nombre de personnes à nourrir. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins ne manquait pas. Chacun recueillait ce dont il avait besoin. Après la libération, c'est le temps du désert. Le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte. Il a quitté la terre de servitude conduite par Moïse grâce à l'intervention de l'Éternel en traversant la mer. Et de l'autre côté de la mer, c'est le désert. Et ce n'est pas tout d'avoir été libéré. Il s'agit maintenant de vivre, tout en étant libéré. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les Israélites ont faim. Et la peur de la faim, d'avoir encore faim, les conduit à regretter l'Égypte, un mois et demi après en avoir été délivrés. Comme il faut peu de temps pour éprouver que la liberté ne va pas sans risque. La sécurité du ventre plein fait regretter le temps de l'esclavage, quitte à réécrire un peu l'histoire quand même. Les marmites de viande et le pain égyptien occultent déjà le souvenir de la peine de l'esclavage. Libérer, c'est bien, mais rassasier, c'est mieux, c'est préférable. Libérer, c'est bien, mais sans souci du lendemain, sans contrariété, sans difficulté. Après la libération, c'est l'épreuve du désert, du lendemain qui ne ressemblera pas à hier, de la peur qui ronge autant que la faim creuse. C'est qu'il n'y avait pas d'incertitude en Égypte. Mais au désert, les repères familiers ont disparu, les divertissements n'ont plus cours, plus rien ne masque la vulnérabilité de l'humain. Moïse et Aaron font les frais de cette angoisse qui déborde. Aux yeux des Israélites, ils sont responsables de la famine qui menace et de la mort qui rôde. Mais à travers eux, n'est-ce pas plutôt Dieu qui est visé par les récriminations, un Dieu qui aurait pu prévoir quand même de la nourriture, un Dieu qui pourrait faire un peu plus pour son peuple, lui tracer une route confortable dans le désert jusqu'à la terre promise, le pays ruisselant de lait et de miel. Puisque Dieu a libéré de sa main puissante, puisqu'il a fait sortir les Israélites d'Égypte de sa main puissante, ne peut-il pas assurer la suite, la traversée du désert de cette même main toute puissante? Dans la Bible, le désert est un lieu paradoxal, lieu de l'épreuve, de la solitude, du silence, des bêtes sauvages, du manque d'eau et de nourriture, de mort. C'est aussi un lieu de révélation de Dieu, un lieu d'écoute et de compréhension de ce qui relie Dieu et l'humain. Et voici la manne, le pain que Dieu fait pleuvoir depuis le ciel. Les Israélites ne mourront pas de faim. Pourtant, dans l'épreuve du désert, la manne est elle-même une épreuve pour le peuple. Et, dit l'Éternel, c'est une épreuve de confiance. L'enjeu de la manne, ce n'est pas un estomac bien rempli. C'est la vie, c'est ce qui fait vivre par l'écoute d'une parole. Le peuple suivra-t-il ma loi, ma Torah? La Torah, c'est le guide de vie. D'ailleurs, le texte insiste sur la métaphore du pain que Dieu fait pleuvoir du ciel comme qualité de vie, car ce pain particulier que l'Éternel fait pleuvoir du ciel est désigné avec un mot traduit en français dans le texte, dans la traduction de la NBS, par « chose ». Une chose qui vient d'un acte de Dieu, mais c'est le même mot hébreu qui signifie aussi « parole ». La manne, c'est un don de Dieu qui fait vivre. Vivre bien plus que de la vie biologique, bien autrement que de la vie biologique, qui ne suffit pas pour vivre et pour vivre en étant libéré. Alors ce qui est dit de la manne dans ce récit exprime plusieurs caractéristiques de ce qui fait vivre et plusieurs caractéristiques de la vie ainsi rendue vivante. Six caractéristiques, plus exactement 5 plus 1. La première caractéristique, c'est le quotidien, la quotidienneté. Chaque jour, la manne est donnée à recueillir pour ce jour-là, sans entasser pour le lendemain. Sauf le 6e jour où chacun prendra aussi pour le 7e. Mais chaque jour, sans entasser, sans accumuler, sans faire de réserve. Et cette limite posée rend compte de la valeur du présent. Un présent qui n'est pas tourné vers le passé pour le regretter et s'en lamenter, ni pour le magnifier en idéal qu'il faudrait retrouver. Un présent qui n'est pas non plus écrasé par la perspective d'un lendemain effrayant dont Dieu se désintéresserait, ni par celle d'un lendemain qui serait plus important que le jour qui est. Le présent est un présent de confiance, en confiance, et porté par cette fidélité divine qui permet à chaque jour d'être le temps de la présence de chacun, en parole et en action. Le temps de vivre, c'est aujourd'hui. Nous ne sommes qu'au présent. Donc le quotidien comme première caractéristique. La deuxième, complètement associée à la première, c'est celle du besoin pour chaque jour. Elle indique la capacité à discerner le besoin de l'envie et la reconnaissance des situations singulières. Le besoin n'est pas le même pour tous. Et la reconnaissance du besoin de chacun est plus importante que la stricte égalité bien comptée, bien pesée, bien mesurée. Cette inégalité ne relève pas d'une appropriation indue, mais de l'attention envers chacun. Elle est la prise en compte des diversités des uns et des autres et des transformations, des évolutions que les uns et les autres peuvent connaître. Car ce Dieu qui donne n'est pas un Dieu en général, mais un Dieu pour des personnes distinctes les unes des autres. Dieu pour des sujets différents les uns des autres. Donc, le quotidien est la reconnaissance du besoin. La troisième caractéristique, c'est celle de l'extériorité. C'est à l'extérieur du camp que la manne recouvre le sol. Les Israélites doivent sortir pour la ramasser. Elle n'est pas à l'intérieur. C'est que ce qui fait vivre requiert un déplacement, une sortie des lieux de repos et d'abri, un mouvement hors de ce qui est familier. Sortir du camp, c'est comme sortir de soi, sortir de l'entre-soi, sortir du même pour l'ailleurs, qui n'est pas forcément très loin. Le don, l'acte, la parole pour chaque jour ne sont pas tenus par ce que nous bâtissons de pensées, même théologiques, ni de rites, même religieux. Ce qui nous fait vivre, ce qui nous met en existence, au-delà de ce que nous sommes déjà, une dynamique au fil des jours, nous ne la maîtrisons pas, nous ne la possédons pas. Donc le quotidien, la reconnaissance du besoin et la sortie de soi. Et la quatrième caractéristique, c'est celle du soin des autres. La solidarité envers ceux qui n'ont pas pu sortir ramasser la manne, sans qu'on sache du tout pourquoi, il n'est pas indiqué ni de bonnes raisons, ni de mauvaises excuses. C'est une manière de dire que la manne donnée n'appartient pas à celui qui la ramasse. Elle reste don. Même ramassée, elle reste don. Et celui qui recueille le don et en bénéficie ne peut considérer que le don n'est que pour lui-même. Le don qui fait vivre, la parole donnée, oriente toujours vers autrui. Reconnaître que ce qui nous fait vivre nous est donné, nous dispose à le partager, à le faire passer, à en faire bénéficier d'autres. Bonté, tendresse, pardon, amour s'altèrent et pourrissent d'être retenus pour soi. Comme la manne pourrie d'un jour sur l'autre quand elle est accumulée, elle qui est donnée chaque jour. Le quotidien, la reconnaissance du besoin, la sortie de soi et la solidarité. La cinquième caractéristique est représentée par le nom même de la manne. Car ce qui fait vivre n'est pas du pain qui ressemble au pain pétri et cuit au four. Ce qui nourrit la vie de la vie, ne ressemble pas à ce qui nourrit le corps et la vie biologique, ni à ce qui était mangé, avalé dans le temps passé de l'esclavage. C'est nouveau. C'est inédit. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la question que se posent les Israélites en découvrant le nom de Dieu. Et c'est ainsi qu'est nommé ce don. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Manhu en hébreu. La manne, ce qui nourrit la vie. C'est une question. Une question chaque jour. Une question quotidienne. Celle que la confiance n'est pas un aveuglement, mais un éveil de conscience. Et pour cela, il faut des questions. Comme les questions que l'Éternel pose dans les premiers chapitres de la Genèse aux humains. Où es-tu ? Qu'as-tu fait ? Qui t'a dit ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Ou comme les questions que Jésus pose, adresse à ses disciples et à ceux qu'il rencontre. Veux-tu guérir ? De quoi avez-vous peur ? Qui dites-vous que je suis ? Les questions font des chercheurs et des personnes responsables, c'est-à-dire qui répondent, sans que les réponses puissent s'imposer comme définitives en supprimant les questions. Car les réponses définitives ne font plus vivre, elles fabriquent des fanatiques, des indifférents ou des esclaves. En Égypte, les Israélites ne se posaient pas de questions. Mais la libération, c'est une entrée en question. Et ce qui fait vivre, eh bien, c'est de manger des questions, jusqu'à devenir des questionnants, porteurs de questions pour inventer, pour imaginer, pour interpréter un texte ou sa propre existence ou l'actualité, pour inventer, imaginer, pour résister à la résignation et aux évidences qui s'imposent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qui fait vivre ? Question qui ouvre des chemins au travers les préjugés qui cadrent et encadrent, à travers les fondamentalismes qui veulent combler toute faim et toute quête, à travers les pleins des pouvoirs qui prétendent rassasier le désir d'être. La question d'éloge, des quiétudes et des assurances. Et la manne, ce que Dieu donne et qui fait vivre, pose question et provoque à l'existence comme elle provoque une parole de question. Elle provoque à l'existence qui est la vie vivante et la vie libérée. Le quotidien, la reconnaissance du besoin, la sortie de soi, la solidarité et la question. 5. Plus 1. Ce qui nourrit la vie libérée, ce qui fait vivre, ce que recueillent les Israélites, c'est quelque chose de menu, de fin et de crissant comme du givre. Fin, menu, ténu et crissant. Rien de massif ni de compact, rien de somptueux ni de flamboyant, mais du fin. Du menu, du ténu, le même fin et ténu qui signale au prophète Élie à l'Horeb que Dieu est là. Pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix ténue, dans le son d'un fin silence. Ce qui fait vivre requiert la confiance, seulement la confiance. Et ce qui s'impose ne crée pas de confiance. Mais le fin et le ténu, oui. Et tout se tient là. Tout tient à cela et cela nous tient ensemble. Fin, ténu, crissant. Pas de sidération, mais un émerveillement comme lorsque le givre au matin a transfiguré un jardin ou une forêt. Ou un désert, du fin, du menu, du ténu, un signe de reconnaissance, une trace de fidélité, une humble parole qui bénit, un souffle de pardon, un écho de grâce. Ce qui nous fait vivre de vie vivante, de vie libérée, chaque jour se tient dans un tout menu quotidien. Et cela même relance la question chaque jour. Qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui, qu'allons-nous répondre ? Amen.